Bonjour, nous allons ouvrir notre Bible, nos Bibles, dans l'Évangile de Jean, Évangile de Jean, chapitre 8. C'est un grand chapitre, nous allons voir les premiers 11 versets dans ce chapitre. Évangile de Jean, chapitre 8, le premier 11 versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est la parole de Dieu. Je suis certain que beaucoup d'entre nous sommes familiers avec le texte que nous venons de lire, que nous avons déjà lu et entendu plusieurs fois. Mais nous allons glaner dans le champ de notre bon maître, comme Ruth partit glaner dans le champ de Boaz pour sa survie. Sa parole est notre pain de vie, n'est-ce pas? Même si nous avons été baignés dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle à travers de sa parole. Chaque fois que nous la lisons, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est mort, mais de quelqu'un qui vit toujours. Et cette parole est toujours d'actualité, elle traverse des siècles et transcende les civilisations, langues et cultures. La parole de Dieu reste la même, c'est toujours l'actualité. Chacun ici peut dire dans quel état il est venu dans ce lieu. Soit pour être pardonné ou afin de ne pas pardonner aux autres, pour recevoir le don gratuit de Dieu ou pour pointer votre doigt à Dieu en l'accusant pour tout malheur du monde entier. Mais sachez que vous allez être exposé à la parole de Dieu et Dieu peut vous parler à travers de sa parole ce matin. Le texte devant nous a été le sujet de grandes discussions par des théologiens pendant des siècles. Car certains pensaient qu'il n'est plus parti de l'évangile de Jean dans le manuscrit original en grec. Dans certaines de nos Bibles, vous pouvez voir, le texte se trouve entre parenthèses. Nous n'allons pas parler de ça maintenant, mais voir qu'est-ce que nous allons apprendre à travers de ce passage. Nous trouvons cette histoire en fin de ministère terrestre de Jésus, quelque temps avant sa mort. Regardons notre texte à Jean 8:1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Normalement, ce premier verset devrait être le verset 54 du chapitre 7. Regardez le verset 54 du chapitre 7. Et chacun se retourna dans sa maison. Mardi, dans l'étude biblique, le frère Timothée nous a rappelé que les versets sont créés dans la Bible par un Français dans le 15e siècle et le chapitre dans le 12e siècle. Sinon, la Bible n'était pas écrite en chapitre et verset. Alors, pour mieux comprendre, nous allons lire les deux versets ensemble. Le chapitre 7, le dernier verset. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Le premier verset de chapitre 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Les versets qui précèdent le dernier verset indiquent bien que Jésus a eu une longue et dure journée comme chaque jour de sa vie. Et nous lisons dans le verset 5 de chapitre 7, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Car ses frères, ses propres frères, non plus ne croyaient pas en lui. Le peuple le rejette en disant, « De la Galilée, il ne sort point de prophète. » Verset 52. Voyez-vous le sort de Messie qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sa propre famille, sa patrie, son peuple. Ce qu'il disait, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous ne l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est dans cette condition et le premier verset de ce chapitre commence. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Et Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Je trouvais cet verset assez triste. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Oui, c'est là qu'il retirait souvent le soir pour reposer sa tête sous les oliviers, notre Seigneur, roi de la terre et des cieux. Et nous aussi, dans une petite heure, nous allons retourner chacun dans notre maison. Et Jésus, avons-nous la place pour lui dans nos cœurs, dans nos foyers, ou abandonnons-lui dans cette salle vide et fermée? Regardez les versets 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait, comme il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus était au temple dès le matin. Tôt le matin, il était au temple. Malgré les menaces qu'il a reçues le jour précédent, quand il prêcha dans le temple, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Il voulait le tuer. La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Oui, face au reniement, l'abandon de ses propres frères, les fausses accusations, les blasphèmes, nous voyons Jésus au temple. Dès le matin. Et nous, souvent nous sommes confortables. On a mal à venir dimanche matin à 10h30. On pense que c'est tôt. Et on peut se retirer au confort de notre grasse matinée. S'étant assis, il les enseignait. C'était la coutume pour un enseignant pour être assis, pour donner l'enseignement. Et avec autorité, il enseignait. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Quand les Juifs ils sont venus vers lui pour l'attraper, pour amener pour le crucifier, Il disait, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Quand ils sont venus pour l'attraper, c'était juste quelques jours avant de sa crucifixion. Ce texte, il est juste quelques jours avant de sa crucifixion. Mais il s'assoit pour les enseigner par compassion, car Jésus voyait la foule comme des brebis sans berger. Le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Pendant son ministère, Jésus a eu affaire aux scribes, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans la ville de moindre importance et des villages. En dehors de Jérusalem et même dans les communautés juives hors de Palestine, les scribes étaient des fonctionnaires, des hommes instruits dans la loi. Certains exerçaient l'activité de copiste ou de juge dans leur localité. À Jérusalem, les scribes travaillaient en étroite collaboration avec les autorités juives. Leur rôle consistait, semble-t-il, à assister les prêtres en ce qui concerne la procédure judiciaire de l'application de traditions juives, d'une part, et les activités du Sanhédrin, d'autre part, déclare un dictionnaire biblique. Étant d'éminents enseignants de la loi, certains scribes étaient membres du Sanhédrin, le cour suprême juif, aux côtés de prêtres en chef et des pharisiens. La plupart du temps, les scribes sont présentés comme des adversaires religieux de Jésus avec les pharisiens. Je pense que ce sera bien si nous pouvons lire ce que Jésus disait sur ces gens. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Le passage est un peu long, mais ce serait bien que nous lisions ce passage pour comprendre ce que Jésus il disait sur ces personnages religieux. Matthieu chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'à 35. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'appartenance, apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre, deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, juré par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors du coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux et au dehors et qui, au dedans, sont pleins de ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et l'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez le tombeau des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avons vécu du temps de notre Père, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous de châtiment de la guéhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez de vierges les autres dans vos synagogues, et vous persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à le sang de Zacharie, fils de Barachie, qui vous avait tué entre le temple et l'autel. Et afin que vous retombez sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à le sang de Zacharie, fils de Barachie, qui vous avait tué entre le temple et l'autel. Et donc, pour comprendre ces adverses de Jésus-Christ, nous voyons comment Jésus il est regardé, ces gens qui paraissaient très religieux. Oui, en effet, de deux principaux adversaires de Jésus amenèrent une femme surprise en adultère. Vous savez quel type de personne qui amène cette femme? Elle était bien prise en flagrant délit dans l'adultère, mais les gens qui les amènent, ils sont des pharisiens et des scribes. Ils placent devant Jésus qui était assis entouré par une foule de personnes. Le jour précédent, les adversaires de Jésus avaient tout essayé pour attraper Jésus, pour le faire mourir. Juste le jour précédent. Ils n'ont pas pu trouver la faute dans sa doctrine. Regardons ensemble en Jean 7, verset 40, le chapitre juste avant Jean 8, verset 40, Jean 7, verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous pouvons dire ici, parmi les foules des gens qui ont entendu l'enseignement de Jésus, les pharisiens, les scribes ont entendu le plus, avec beaucoup d'attention. Parmi les auditeurs, ces scribes et pharisiens, ils ont entendu l'enseignement de Christ très attentivement. Ils sont quand même des gens très religieux, mais pourtant, de même, nous pouvons être religieux sans pour autant ne pas pouvoir saisir l'enseignement de Jésus qui peut nous conduire à la vie éternelle. Toute notre connaissance de Dieu et nos bagages religieux peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux comme un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Oui, il faut être vraiment petit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec tous nos bagages, avec notre connaissance, on peut essayer d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, comme ils ne pouvaient pas attraper Jésus pour le faire mourir, ils amenèrent cette femme prise en flagrant délit d'adultère dans le but de le piéger. Notre texte nous dit clairement, il disait cela pour l'éprouver, verset 6. Hein. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, il essaie de piéger Jésus. C'est pourquoi il amène cette femme. L'adultère est un délit selon le commandement de Dieu. Nous savons tous. Donc l'accusation est juste. En Exode 20, 14, je lis, « Tu ne commettras point d'adultère. » Ce qu'il a dit Dieu dans son commandement, dans le 10 commandements. « Tu ne commettras point d'adultère. » C'est le 7e de 10 commandements que Dieu donna aux enfants d'Israël. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 4. Maître, il appelle Jésus maître. Ceux qui l'ont appelé démoniaque juste la veille. Il appelle maître celui qu'il cherche à faire mourir. C'est bien avec un certain mépris qu'il appelle Jésus maître, et non avec amour et respect. Et l'accusation semble être vraie, car ils disent qu'elle était surprise en flagrant délit. Et nous voyons dans le texte que la femme ne renie pas le fait non plus. Ils disent, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, toi donc, que dis-tu ?» Regardons ce que dit dans la loi. Deutéronome 22-22, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Mais vous voyez ce que le pharisien et le scribe, ils venaient vers Jésus pour dire que la femme, ils disent, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Toi donc, que dis-tu? Mais il y a une vérité, mais c'est moitié la vérité. Ce n'est pas entièrement la vérité. Ils ont laissé l'homme libre. C'est uniquement la femme. Mais nous vivons dans une société où, même aujourd'hui, les femmes, elles sont parfois maltraitées, elles sont méprises. Mais imaginons, il y a 2000 ans ou 3000 ans, c'est la vie était c'est très, très dure pour une femme. Et oui, Dieu est saint, et il a le péché. Il veut que son peuple soit saint comme lui-même est saint. La parole dit que la punition pour ce péché est la mort. Dieu a dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Pour nous qui vivons dans le 20e siècle, ça peut paraître dur. Car le péché mentionné ci-dessus est vu dans cette partie du globe avec beaucoup de légèreté. Pour nous, la punition, la peine de mort, ça peut paraître très dur, même cruel ou barbare. La raison, parce que nous vivons dans une époque, dans le pays, où l'adultère, ce n'est plus considéré comme un péché. Il y a même des publicités partout qui incitent les gens à indulger dans ce péché. Et dans le verset, il dit, « Toi donc, que dis-tu ?» Cette question est posée à celui qui est plus grand que Moïse, Jésus-Christ, et Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu ne peut jamais se contredire lui-même. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parfois, nous, les chrétiens, qui connaissons si bien la parole de Dieu, veulent poser le même type de question à Dieu. Nous avons la parole de Dieu révélée pour nous, pour nos vies. Mais souvent, nous voulons connaître la volonté de Dieu. On pose la question plusieurs fois à Dieu, la même question. Mais Dieu devrait nous simplement nous demander de regarder dans la parole, dans sa parole révélée, pour connaître sa volonté. Approcher Dieu avec une intention de vouloir entendre autre chose que la parole, parole révélée, c'est se moquer de Dieu. Approcher Dieu avec une intention de vouloir entendre autre chose que la parole révélée, c'est se moquer de Dieu. C'est des personnes qui n'ont pas l'intention de marcher selon la volonté de Dieu, cherchent souvent les révélations supplémentaires de Dieu. Mais nous voyons ce centurion qui dit, « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est un homme de foi, de la foi. Toi donc, que dis-tu? La question, bien évidemment, c'est pour piéger Jésus, pour l'attraper en flagrant délit devant la loi ou en contradiction de sa propre parole, pour démontrer que Jésus, il prêchait la compassion, il prêchait l'amour, le pardon, et pourtant il est en train de condamner une femme sévèrement. En effet, la femme qui l'amène devant Jésus est seulement un appât pour attraper Jésus, pour l'accuser et pour faire mourir. Mais quand on lit attentivement ce passage, la femme adultère, c'est seulement un appât qui l'amène devant Jésus pour attraper Jésus-Christ, pour le faire mourir sur la croix. Misérables pécheurs sont-ils les hommes? Même quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne se repentent pas. Ils essaient de faire le malin devant Dieu Créateur, devant le Dieu de l'univers. Bien que la loi de Moïse condamne le péché d'adultère et souscrit la peine de mort par lapidation, les Juifs n'avaient pas le droit de le faire sans l'autorisation du Rome. Ils voulaient peut-être piéger Jésus pour ensuite l'accuser devant Rome. Une autre raison, les Juifs n'avaient pas le droit de faire mourir quelqu'un car il était sous le régime du Rome, et donc il voulait piéger Jésus pour démontrer qu'il n'obéissait pas à l'autorité du Rome. Et ce que nous voyons dans la parole, le verset 6b, « Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Celui qui est entré dans le temple pour enseigner, celui qui parlait comme jamais aucun homme a parlé, garde son silence. La sagesse divine. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Proverbe 24, 7. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Et encore dans le même proverbe, le proverbe 26, 4. Ne repens pas à l'insensé selon sa folie. Jésus est notre meilleur exemple. Nous devrions l'imiter. Parfois, la silence répond plus fort que beaucoup de mots. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, mais nous regardons ici que Jésus, Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, s'est laissé maltraiter par des malfaiteurs. Mais quand on pense comment Jésus était maltraité, nous pouvons peut-être penser uniquement à ce qu'il a subi à Golgotha. Non, et pendant sa vie terrestre, pendant toutes ces années, il était maltraité par le mépris des hommes. Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Beaucoup d'encre a coulé en devinant ce que Jésus aurait écrit avec le doigt sur la terre. Les gens, quand il n'y a pas grand-chose mentionné dans la Bible, il y a beaucoup de discussions souvent, beaucoup d'arguments. Et donc, beaucoup d'encre a coulé en devinant ce que Jésus aurait écrit avec le doigt sur la terre. Si vous me demandez, la seule réponse théologique que je pouvais vous donner, c'est que je ne sais pas. Tout simplement parce que la parole de Dieu ne dit rien. On ne peut pas savoir ce qu'il a écrit. Mais il ne voulait pas répondre à ses pharisiens et des scribes. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et le dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Vous avez remarqué la réponse de Jésus-Christ à ces gens, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Dans le scénario, la seule personne qui peut jeter la pierre, c'était Jésus-Christ, qui était sans péché. Mais il n'y avait pas un autre être humain sur la terre qui peut jeter la pierre sur cette femme. Et Jésus, il piège ces gens par leur propre, par leur propre mot. Qui est celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle? La silence de Jésus est la manifestation de sa grâce. Si Jésus, il n'a pas parlé pendant un certain moment, le silence, c'était la manifestation de la grâce de Dieu, puisque les hommes, ils peuvent repentir. Les hommes, ils peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec le Seigneur de Seigneur. Pour comprendre, c'est la grâce de Dieu pour comprendre avec qui ils sont en train de parler. Est-ce que nous comprenons la grâce de Dieu dans notre vie? Il avait les donné un temps de grâce pour réfléchir, pour comprendre leur folie. En Proverbe 26:5, répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. De sa bouche saute une épée aiguë pour frapper les nations. Celui qui a gardé le silence, de lui, on lit en Apocalypse 19:15, de sa bouche saute une épée aiguë pour frapper les nations, mais il a gardé le silence devant ces gens. Amen. Comme il continuait à l'interroger, se leva et lui dit, que celui, vous qui êtes sans péché, jette la pierre contre elle, l'accusateur est accusé. Jésus n'approuve pas le péché. En disant ça, Jésus, nullement, il a approuvé le péché. Il dit que il n'a pas dit que la femme, tu n'as pas péché. Il condamne le péché. Mais si nous regardons bien, c'est une grâce providentielle de Dieu qu'ils ont amené cette femme devant Jésus et pas devant le Sanhédrin ou pas devant Rome. C'est une grâce providentielle de Dieu qu'ils ont amené cette femme devant Jésus pour être condamnée. Et parfois, nous cherchons à être jugés par des hommes. Nous cherchons à trouver la justice avec les hommes, mais nous hésitons de venir devant Dieu, qui est le juste juge. Mais c'est ici que nous voyons, prenez avec moi Jean, évangile de Jean, dans le même évangile, oui, le premier chapitre, Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est une étonnante situation où nous voyons la grâce et la vérité ensemble. La vérité est que la femme, elle a commis l'adultère. Elle est condamnable. Elle doit mourir. Ça, c'est la vérité. Et Jésus, nullement, il a essayé de manipuler ou changer la vérité, ou renier la vérité. Mais on voit la grâce de Dieu dans cette histoire. On voit la grâce de Dieu. Et vous, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est très, très rare que la grâce et la vérité ils marchent ensemble. Surtout pas avec les hommes. Même si nous devrions dire la vérité, je pense qu'on était enseigné par rapport à ça dans les derniers jours, nous devrions dire la vérité avec beaucoup de grâce. Et quelqu'un qui a dit, vérité sans grâce, c'est comme une opération sans anesthésie. On peut dire les choses, mais sans anesthésie. Et grâce sans vérité, c'est dangereux aussi. Mais ici, nous voyons que comment Jésus il a pu démontrer, manifester la grâce et la vérité ensemble. Donc, verset 9, quand il a entendu cela, accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et qu'est-ce que les hommes ils peuvent faire quand Dieu il commence à parler? Quand Dieu parle, qu'est-ce que les hommes ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent tenir debout devant un Dieu si juste? Accusés par leur conscience. Et c'est le don de Dieu, n'est-ce pas, la conscience? Et sans la conscience, nous ne serions pas épargnés de beaucoup de choses. Et nous devrions efforcer pour garder notre conscience d'une manière tendre, que nous ne nous étouffons pas notre conscience, quand notre conscience, enseignée par la parole de Dieu, saisonnée par la parole de Dieu, parle, nous devrions écouter à notre conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Celui, il était seul, le seul juge qui peut juger les hommes. Le seul juste sans péché qui peut juger les hommes. Le verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Une question pertinente. La femme pécheresse, toute seule avec le maître, le vrai maître, et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et là, le Seigneur, je pense qu'il y a beaucoup de sens quand il dit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et elle a reçu le pardon de Dieu. Elle n'a pas renié sa péché, elle a accepté sa péché, elle a même accepté la condamnation. Elle savait que le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que Même si ce n'était pas juste que l'autre qui a péché avec elle, il était laissé libre, mais elle n'a pas contesté. Elle a simplement accepté sa part. Elle a dit, elle s'est tenue devant Dieu pour dire que oui, je suis pécheur. Donne-moi le pardon. Et il dit, non, Seigneur. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quelle est cette liberté que cette femme elle a eue en ce moment? Hein? Elle a une joie dans son cœur. Pas la joie d'échapper à la condamnation, mais de la joie d'être pardonné. Et j'aimerais bien lire la dernière strophe de Conte que nous avons chanté ce matin. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se repent sur le pécheur le plus misérable. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. De ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi, coupable. De ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi, coupable. Nous étions tous les misérables pécheurs. Et quelle miséricorde Dieu nous a montrée envers nous. Et il nous a pardonné de nombreux péchés. De ne pas être fidèle à Dieu, c'est comparé bien souvent dans la parole comme adultère. Et nous sommes tous coupables de ce péché. Et Dieu nous pardonne. Tenons seul avec notre Seigneur, avec notre Sauveur, pour confesser notre péché d'infidélité. Et que seulement lui, il est capable de nous pardonner. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous donne la capacité de vivre pour lui. Prions.